Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. L'Apologie de Socrate est un dialogue de Platon qui met en scène la défense prononcée par Socrate lors de son procès à Athènes en 399 avant notre ère. Accusé de ne pas honorer les dieux de la cité, d'introduire de nouvelles réalités divines et de corrompre la jeunesse. Le philosophe répond lui-même à ses accusateurs devant le tribunal populaire. Le titre ne désigne pas une excuse, mais un plaidoyer. L'ouvrage relève à la fois du témoignage philosophique, du discours judiciaire et de la réflexion morale. Platon y fait de la situation concrète du procès une épreuve des principes socratiques, chercher la vérité, reconnaître les limites de son savoir, préférer la justice à la sécurité et prendre soin de son âme. Le texte ne doit pas être lu comme une transcription vérifiable mot à mot de l'audience, mais comme le portrait philosophique d'une attitude. Sa brièveté et la netteté de ses enjeux en font une porte d'entrée majeure dans la pensée socratique et dans les origines de la philosophie occidentale. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le procès comme confrontation entre la philosophie et les préjugés civiques, la défense de Socrate ne commence pas seulement par les accusations officielles. Elle s'attaque d'abord aux représentations anciennes qui ont préparé l'hostilité des Athéniens, l'image d'un penseur habile à retourner les arguments. Curieux des choses célestes et souterraines, ou professeur rémunéré capable de transmettre une expertise. Socrate distingue ainsi les calomnies durables des griefs formulés devant le tribunal. Cette distinction éclaire un mécanisme politique toujours reconnaissable, une réputation collective peut peser davantage qu'un examen précis des faits. Sa méthode consiste à demander ce que les accusateurs savent réellement et à relever les contradictions de leurs affirmations. Il ne cherche donc pas à émouvoir les juges par une mise en scène de la pitié, mais à déplacer le procès sur le terrain de la raison. Cette stratégie est risquée, car elle contredit les usages attendus du plaidoyer judiciaire. Platon présente ainsi une tension fondamentale entre la recherche philosophique, qui exige d'interroger les opinions installées, et une cité qui peut ressentir cette interrogation comme une agression. Le texte ne réduit pas Athènes à une foule irrationnelle, mais montre combien une communauté politique devient vulnérable lorsque l'apparence, la réputation et la conformité l'emportent sur l'examen des raisons. Deuxièmement, le savoir de ne pas savoir comme principe d'enquête et de lucidité, l'épisode de l'oracle de Delphes fournit le cadre intellectuel central de l'apologie. Socrate rapporte que l'oracle l'aurait désigné comme le plus sage des hommes, affirmation qu'il entreprend de vérifier plutôt que d'accepter passivement. Il interroge des responsables politiques, des poètes et des artisans. Son enquête ne conclut pas que ces personnes ne possèdent aucune compétence les artisans, notamment maîtrisent réellement leur art. Leur erreur consiste à étendre indûment cette compétence à des questions morales ou politiques sur lesquelles ils ne savent pas davantage que les autres. La sagesse socratique est donc négative et précise, elle réside dans la conscience de son ignorance, là où l'on manque de connaissances. Ce principe interdit deux attitudes opposées, la prétention dogmatique et le renoncement sceptique. Reconnaître une limite devient au contraire le point de départ d'une recherche plus honnête. Cette pratique explique aussi l'impopularité de Socrate, car elle rend visible la fragilité des certitudes sociales. Chez Platon, la philosophie ne consiste pas à accumuler des informations, mais à soumettre ses jugements à l'examen et à proportionner ses affirmations à ce que l'on peut véritablement justifier. Troisièmement, la mission philosophique. Comme service rendu à la cité, Socrate refuse de se présenter comme un maître possédant une doctrine à vendre. Il décrit son activité comme une mission reçue du dieu, consistant à éveiller ses concitoyens à la valeur de leur âme. L'image du taon donne une portée civique à cette mission comme l'insecte stimule un grand cheval ralenti, le philosophe empêche la cité de s'endormir dans l'autosatisfaction. Cette formule ne signifie pas que Socrate revendique un pouvoir politique direct. Il affirme plutôt que le questionnement public peut servir la communauté en révélant l'incohérence entre les valeurs proclamées et les conduites effectives. Sa priorité n'est ni la richesse, ni la réputation, ni les honneurs, mais l'amélioration morale. Il invite donc les Athéniens à considérer si leur choix développe la justice, la vérité et la vertu. Cette conception du service public est exigeante parce qu'elle ne flatte pas son destinataire. Elle suppose qu'une cité saine doit tolérer, voire reconnaître, ceux qui contestent ses certitudes. L'Apologie expose toutefois les limites pratiques de cette fonction Socrate, explique qu'une participation politique régulière l'aurait vraisemblablement conduit à la mort plus tôt. La philosophie agit alors dans l'espace quotidien des rencontres, sans se confondre avec l'exercice institutionnel du pouvoir. Quatrièmement, l'intégrité morale face au verdict et au risque de mort. Dans l'Apologie, Socrate soutient qu'il est pire de commettre une injustice que de la subir. Cette hiérarchie donne sa cohérence à son refus de rechercher l'acquittement à tout prix. Il ne veut ni renier sa pratique philosophique, ni supplier les juges en exhibant sa famille. car une telle conduite ferait dépendre le juste de l'avantage immédiat. Son attitude ne repose pas sur l'indifférence au danger, il reconnaît la gravité de la condamnation. Mais il juge qu'un homme ne doit pas calculer seulement ses chances de survivre. Il doit examiner si son acte est juste ou injuste. Il rappelle aussi des épisodes de sa vie publique où il s'est opposé à des décisions qu'il estimait illégales ou injustes, malgré les risques. Ces références montrent que sa fermeté au tribunal n'est pas une posture improvisée. La discussion de la mort approfondit ce principe. Socrate ne prétend pas connaître avec certitude ce qui attend l'être humain après la mort. Il envisage cependant deux possibilités qui ne paraissent pas redoutables: une absence de sensations comparables à un sommeil paisible, ou une migration de l'âme permettant de dialoguer avec les morts. L'essentiel est ailleurs, nul ne sait si la mort est un mal, tandis que l'injustice corrompt assurément l'âme. En dernier lieu, une critique implicite du jugement majoritaire et des limites démocratiques, le procès de Socrate a durablement marqué la pensée politique de Platon, et l'apologie en porte déjà les traces. Le texte montre un tribunal composé de citoyens appelés à décider d'une question grave, mais exposés aux rumeurs, aux talents oratoires et aux passions collectives. Il ne fournit pas pour autant une théorie achevée des régimes politiques, celle-ci sera développée dans d'autres dialogues. Sa contribution est plus concrète. Platon fait voir qu'une décision conforme aux procédures peut néanmoins manquer de discernement moral et intellectuel. La majorité condamne Socrate, tandis que celui-ci persiste à soutenir que la vérité ne se mesure pas au nombre des adhésions. Cette tension ne doit pas être simplifiée en rejet absolu de toute vie civique. Socrate reconnaît les lois de la cité et accepte le cadre de son jugement, même lorsqu'il en subit l'issue. En revanche, il refuse d'identifier la légalité, l'opinion majoritaire et la justice. Le livre oblige ainsi à distinguer le fonctionnement d'une institution de la qualité des raisons qui guident ses décisions. Son intérêt politique réside dans cette question durable: comment une collectivité peut-elle protéger le débat critique sans traiter l'examen rationnel comme une menace contre son ordre ou ses croyances? En conclusion, l'apologie de Socrate s'adresse d'abord au lecteur qui découvre Platon, la philosophie grecque ou les rapports entre conscience individuelle et vie publique. Sa forme brève et son cadre judiciaire rendent immédiatement perceptibles des questions qui demeurent centrales: qu'est-ce qu'un savoir justifié? Jusqu'où faut-il suivre une conviction morale? Et comment une cité accueille-t-elle la critique? Les étudiants y trouveront un texte fondateur pour comprendre la méthode socratique. Tandis que les lecteurs intéressés par l'éthique ou la politique y verront une réflexion dense sur la responsabilité du citoyen et les fragilités du jugement collectif. Son bénéfice intellectuel ne tient pas à la fourniture de réponses prêtes à l'emploi. Il apprend plutôt à distinguer conviction, réputation et connaissance, ainsi qu'à évaluer une action selon sa justice plutôt que selon son succès immédiat, par rapport à de nombreux traités philosophiques abstraits. L'ouvrage se distingue par l'unité entre une doctrine morale et une situation limite. Socrate défend ses idées alors que sa vie est en jeu. Par rapport aux autres dialogues de Platon, il offre aussi un accès particulièrement direct à la figure socratique, avec peu de détours spéculatifs et une forte concentration argumentative. Cette édition française permet d'aborder un classique dont la force provient moins d'un système fermé que de l'exigence constante de soumettre toute prétention au savoir à l'examen. Rationnel. Si vous souhaitez soutenir Platon, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.